55 de Canal+.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h à Bamako, Ouagadougou et en temps universel, 20h à Kinshasa, 14h ici à Washington. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct. Bienvenue dans notre bulletin d'information. Au Burkina Faso, des soldats se sont mutinés dans plusieurs casernes du pays pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens plus adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent ce pays depuis 2015. Le correspondant de la Voix de l'Amérique, Henry Wilkins, a été brièvement arrêté par les mutins puis relâché. Il a pu enregistrer les demandes des militaires mutins.
Premier point, au moment des moyens adaptés à la lutte et des effectifs conséquents. Deuxième point, remplacement CMZA, CEMAT, DGANR. Troisième point, meilleure prise en charge des blessés en OSP et les familles des défunts. Quatrième point, réévaluation des plans. Cinquième point, formation du personnel adapté à la menace. Et enfin, le dernier point, fin des unités constituées permanentes au lieu de collecter des effectifs pour envoyer au front.
Ce sont donc les demandes exprimées par les militaires qui se sont donc mutinés très tôt ce matin au Burkina Faso. Le gouvernement a rapidement réagi en reconnaissant des tirs dans plusieurs casernes, mais a démenti une prise de pouvoir par l'armée. Les autorités burkinabées ont réitéré leur confiance dans les forces armées et appellent à la population à rester calme. Par ailleurs, des manifestants ont incendié le siège du parti au pouvoir à Ouagadougou, la capitale. L'incendie a détruit le rez-de-chaussée du bâtiment du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Les manifestants ont été dispersés par la police. Au Mali, un camp de la mission des Nations Unies à Ménaka, dans le nord du pays, a été visé cet après-midi par des tirs d'obus de mortier qui n'ont pas fait de victimes. Hier, un soldat français a été tué lors d'une attaque au mortier contre le camp de Barkhane à Gao. Les Sénégalais votent aujourd'hui depuis 8 heures, temps universel, pour élire leur maire et président de département. C'est un scrutin test pour le pouvoir et l'opposition à 5 mois des élections législatives. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir, a nommé hier les 81 membres du Conseil national de transition, l'organe législatif de transition devant décider de la date du retour des civils au pouvoir. Le médecin Danso Kuruma, un activiste de la société civile, a été nommé président du CNT. Au Cameroun, un incendie d'origine accidentelle provoqué par des feux d'artifice a tué au moins 16 personnes. Hier, dans la nuit, dans une discothèque d'un quartier huppé Yaoundé, ce drame survient alors que le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Le bilan de ce drame est le plus lourd de ces dernières années. Et puis en Libye, le chef du gouvernement intérimaire Abdelhamine Deïba a appelé à l'élaboration d'une constitution avant des élections présidentielles et législatives reportées en décembre sur fond de divergences entre camps rivaux.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le reste de l'actualité dans le monde, toujours en bref. L'Ukraine a déclaré ce dimanche vouloir démanteler tout groupe pro-russe après les accusations britanniques à l'égard de Moscou qui cherche, selon Londres, à imposer un dirigeant pro-russe à Kiev sur fond de tensions à la frontière ukrainienne. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a assuré n'avoir aucun doute sur la détermination de l'Allemagne face à la Russie au moment où le gouvernement allemand s'attire les critiques pour son refus de livrer des armes à l'Ukraine. Les combats continuent de faire rage en Syrie pour le 4e jour consécutif. Des djihadistes et les forces kurdes soutenues par la coalition internationale se sont affrontés. Le bilan s'est alourdi à plus de 136 morts. Et puis du sport, bien sûr, pour finir ce journal avec la CAN. Les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ont lieu ce dimanche. Victoire au tir au but du Burkina Faso face au Gabon. Les étalons passent en demi-finale. Le coup d'envoi du deuxième match de la journée, Nigeria-Tunisie, vient juste d'être sifflé. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité sur VOA Afrique. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et sur nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. C'était Claire Morin-Gibourg. Je vous retrouve dans une petite heure pour un nouveau point sur l'actualité. Bon début de soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous. Lionel Lunadila Gahima assure la mise en onde. Le 22 juin 1986, lors du quart de finale de Coupe du Monde, Diego Armando Maradona baptise son but contre l'Angleterre, la main de Dieu. Le gamin en or, El Pibe de Oro, numéro 10 de l'Albi Céleste, s'élève dans la surface de réparation et trompe le portier Peter Shilton en détournant le ballon dans le but anglais avec sa main gauche. Cette action échappe à la vigilance de l'arbitrage et le but est validé. La main qui triche devient donc la main de Dieu. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Depuis Ottawa, au Canada, je suis en ligne avec Tarsis Harelimana. Il est journaliste sportif olympique indépendant. Tarsis, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
En Pennsylvanie, le professeur Jean-Pierre Caleguéier, chercheur et spécialiste des questions religieuses. Bonsoir, Jean-Pierre.
Bonsoir, Eric.
Le 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona succombe à un arrêt cardiaque. Plusieurs quotidiens sportifs titrent « Dieu est mort ». Comment Maradona est devenu un dieu, Tarsis?
Je ne sais pas, il ne dit pas qu'il est Dieu. Maradona refuse ce titre, il dit que le Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Moi, je ne suis qu'un simple footballeur. Donc déjà là, il y a un paradoxe, c'est un humain. Donc Maradona, on lui donne le titre d'un Dieu. Au fond de lui-même, il est croyant, il n'admet pas ce titre. Et là, je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas dit. C'est un croyant, il a ses croyances. Et je pense que là, il faut vraiment faire la part des choses. Mais c'est une sorte de bénédiction. La victoire argentine est une bénédiction d'un Dieu quelque part, comme on le croit. Et je m'excuse, j'ai affaire à un professeur de religion. Mais moi, j'ai ma petite orientation du côté de l'olympisme qui vient de la Grèce antique, où il y a ce dualisme entre l'esprit, le corps et l'âme, dans ce dualisme qui est discuté par les grands théologiens et philosophes de ce monde jusqu'à présent. Donc il y a ce côté caché, ce noble-là qui nous anime et qui nous passionne. Et heureusement que finalement, le football rassemble et assemble. Et le football, ou surtout le sport, est ouvert à toutes les religions et à toutes les croyances.
Maradona dit lui-même qu'il est un simple serviteur de Dieu. Mais est-ce que c'est à travers ce but, sa main de Dieu, qu'il devient finalement un Dieu?
Non, je pense qu'à partir du moment où Maradona est détecté par Boca Juniors et qu'il finalement il devient une étoile des quartiers. Donc à ce moment-là, les journalistes et tout le monde se posent la question de savoir quel est ce génie qui nous arrive. Et là, ils vont pénétrer, ils vont rentrer dans le secret jusque finalement du côté Barcelone, du côté Naples, et constater que finalement Maradona a le sang des Amérindiens, qu'il a des origines italiennes, qu'il a des origines aussi espagnoles. Donc c'est finalement une personnalité trinitaire qui va animer finalement une époque. Pourquoi pas? Parce qu'on a besoin finalement de ce Maradona. On sort de la dictature. On a une ouverture. L'Argentine est en animation avec le tango et tout ça. Et on a besoin de cet homme qui va rivaliser avec Pelé, qui finalement arrive. Stefano, le grand joueur argentin du Real, ne ressemblait pas finalement à Maradona. Parce que lui, en tant qu'Argentin, venu de l'Espagne, il a pris la nationalité espagnole. Donc voilà, c'est vraiment ce garçon qui arrive et qui agite le monde. Mais encore une fois, c'est un produit qui se vend, qui s'achète. Parce que lui, il est trinitaire. Il n'est pas comme Pelé qu'on va enfermer au Brésil. Un produit brésilien qu'on va protéger et qu'on ne laisse pas partir le gamin pour faire finalement ses rêves en Europe, sauf aux États-Unis vers la fin.
Jean-Pierre, n'est-ce pas exagéré de titrer que Dieu est mort quand il s'agit de la mort de Maradona? Et que peut-on savoir de Maradona, de sa foi et de sa religion?
Je crois que ceux qui ont écrit sur Maradona disant Dieu est mort, bien sûr, ils l'ont pris de façon métaphorique, n'est-ce pas? Et il n'est pas le seul footballeur qu'on appelle Dieu, n'est-ce pas? Et je crois que même Pelé, on l'appelle Dieu du ballon, n'est-ce pas? Mais évidemment, pour Maradona, je crois que cette métaphore est aussi liée, d'une part, à sa foi et d'autre part, par ce geste, ce match contre l'Angleterre, évidemment. Et donc, quand on évoque le mot Dieu, et je crois qu'il y a il y a ces deux dimensions, je dirais même trois. Une autre dimension, parce que c'est aussi un des meilleurs footballeurs, n'est-ce pas, du monde. Je crois que, moi je dirais, c'est au niveau métaphorique que cette image ou cette expression ou ce concept de Dieu est utilisé, et dans son cas, et il n'est pas d'ailleurs le seul.
Parlons de sa foi. Maradona, c'est quelqu'un qui récitait son chapelet avant le match.
Ce qui m'intéresse, c'est pas Maradona en soi, mais c'est plutôt ce lien entre le sport et la foi, n'est-ce pas? Bon, évidemment, Maradona, oui, et je crois qu'à un moment, quand il était aussi entraîneur de l'équipe nationale, et on l'a vu réciter et son chapelet pendant le match, n'est-ce pas? Et donc, je crois que c'est sa façon de vivre sa foi et qui peut être discutée, mais sa façon, sa manière de définir sa relation avec Dieu, avec le monde et avec le sport. Mais évidemment, la question de Maradona, moi, m'intéresse plus de façon générale dans la relation qu'il y a entre le sport et la foi. Et je crois que Tarsis l'avait déjà souligné tout à l'heure quand il parlait, quand il faisait référence aux Jeux Olympiques, à l'histoire des Jeux Olympiques, la relation entre corps et âme.
Comment expliquer justement le fait que son activité sportive, donc le football, est associée à une religion? Tarsis, on sait qu'une église a été fondée en son honneur et revendique 40 000 fidèles à travers le monde. C'est l'église maradonienne qui a même écrit des chants religieux comme par exemple « Je vous salue à Diego ». Les fidèles portent des soutanes à l'effigie du numéro 10, le célèbre numéro de Maradona.
Oui, mais ils refusent ce titre de Dieu. C'est ça, c'est ce qui est paradoxal. Alors, Eric, je pense qu'il faut aller même au-delà de ce sport qui est le football roi et là, et comprendre ce qui se passe finalement en Argentine. L'Argentine, c'est autre chose. L'Argentine, j'ai eu la chance, moi, d'aller au Vatican, d'aller à Lourdes, de visiter tous les sites historiques de l'Égypte, la Grèce aussi. J'ai été aussi au Brésil, tout ça. Donc, en fait, il y a des symboles très frappants. Il y a la croix du Christ que l'on peut voir au Vatican. Donc, et puis, de l'autre côté, à Lourdes, et même en Argentine, il y a la croyance à la Vierge Marie. Ça, c'est symbolique. Mais attention à ce mélange de religions. Quand on parle de la cosmogonie des Amérindiens ou égyptiennes, ou si vous voulez, africaines, même gréco-latines, ben, on se rend compte qu'il y a cette sorte de terre promise qui est là. Alors, chez les Argentins, notamment les Guaranis, donc du côté de Corrientes, eh bien, la terre promise, elle est la terre saine. Donc, on croit à ça. Et donc, au niveau du football, j'ai fait une petite étude. En fait, il y a trois spectacles, même quatre spectacles qui se jouent. Il y a d'abord le résultat qu'on va obtenir entre la confrontation entre deux équipes. Et là, ce sont les acteurs qui sont sur scène. Et vous avez le public qui accompagne et qui encourage l'équipe. Mais vous avez aussi les rituels des sages, des sorciers qui chassent les démons. Et avec la fête, l'ennemi et la main de Dieu, ce n'est que finalement ce démon qui est envoyé quelque part et qui va aveugler finalement le gardien argentin. Et qui finalement, c'est fait là-bas la main de Dieu finalement. Et puis il y a aussi ce culte individuel qui caractérise l'humain, qui est la prière individuelle, le signe de la croix, et probablement un objet que tu dois porter quelque part. Et non, en tant que journaliste, j'étais finalement associé à ce rituel, je l'ai accepté même si je ne pouvais pas accepter ça. Et donc c'est ce que les scientifiques, les meilleurs entraîneurs appellent la psychologie ou la pédagogie mentale, la préparation de l'athlète ou du joueur, et tout ça. Mais finalement, on va voir que avec le début du siècle et même au XXIe siècle, on va utiliser fréquemment le sport et la culture comme symbole de combat. On va voir la culture négro-américaine avec le gospel et tout ça. Et puis, vers la fin, on verra Johnson qui finalement est utilisé au niveau de la boxe jusqu'à Mohamed Ali. Et au niveau de l'Argentine aussi, c'est ça son mythe. Il y a ce mythe de croyance, mais l'Argentin Maradona devient un libérateur, comme tout simplement d'autres libérateurs. Et bien, il va s'identifier aussi, non seulement à d'autres combattants de ce siècle. Donc, il parle qu'il est l'ami de Che. Il croit en Dieu, mais l'ami de Che est de Castro. Donc, c'est vraiment une image de ce produit-là, qui est un produit de Dieu, qui naît dans un quartier populaire et qui rêve à devenir quelqu'un. Et je pense aussi que c'est très important de savoir que rien n'est au hasard. Ça a été prédit quelque part.
Vous relevez quatre points très importants. Donc le sport, ou le football si vous voulez, la foi, le fétichisme et la transcendance. Si nous revenons sur cette main de Dieu, Jean-Pierre, le 22 juin, l'Église maradonienne honore la main de Dieu avec la Pâque maradonienne. Et pour se faire baptiser, il faut accomplir un rituel bien spécifique. C'est ce que disait tout à l'heure Tarsis. On doit marquer un but de la main gauche comme Diego Maradona lors de la Coupe du Monde de 1986 contre l'Angleterre. Comment expliquer cela?
Pour les gens qui les suivent, il y a une dimension qui transcende le sport en soi. Donc les gens croient en lui et cela peut arriver avec n'importe quel, ce qu'on appelle aux États-Unis célébrité, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui soit célèbre, etc. Et je crois qu'il y a une sorte d'idolâtrie, mais idolâtrie pas dans le sens religieux du terme, mais plutôt à une sorte de culte, et encore pas dans le sens religieux, mais qu'on a envers une personne qu'on aime. Donc je crois qu'il y a cela. Mais pour revenir encore à cette question de main de Dieu, et comme on l'a dit, il a utilisé cette expression, Maradona, quand il l'a utilisée, mais évidemment c'est une expression qui existe aussi dans la Bible, par exemple. Je parle de la Bible parce que lui, évidemment, se reconnaît comme chrétien, et je crois qu'il y a au moins 125 fois qu'on retrouve cette expression dans la Bible. Et alors, Tarsis a dit quelque chose aussi de très important dans cette relation au sport, ce que ça apporte. Et Eric, je crois que tu as posé aussi la question du fétichisme dans le sport. Et je crois que ça, c'est un élément important. Si on fait une relation, on se pose la question de la relation entre sport et foi, il y a une dimension, je crois, qui est dangereuse. Et je crois que c'est quand vous avez parlé de fétichisme. C'est vrai, il y a un aspect psychologique qui est important, mais je vais un peu commenter un tout petit peu sur le fétichisme, mais aussi une autre dimension et qui est positive qu'on ne doit pas ignorer de la relation entre le sport et la foi, et j'y reviendrai ça très très rapidement. Parlons un peu par exemple de ce fétichisme qu'on retrouve dans plusieurs pays, c'est-à-dire, prenons l'exemple dans notre, enfin parlant en tant qu'Africain, dans notre continent, quand on regarde les différents types de sports que nous avons, que ce soit le football, que ce soit la lutte. Par exemple, pour le cas de la lutte, vous avez le Sénégal, vous avez aussi la République démocratique du Congo et d'autres. Et c'est comme si ce sont aussi des lieux de l'expression d'une certaine magie ou croyance, je dirais. Et ma crainte dans ce genre, par exemple, de cette croyance, c'est que ça, autant que ça peut être un lieu important psychologique, mais aussi, pour certains, ça peut aussi diminuer son propre rôle en tant que joueur. C'est-à-dire, c'est qu'on peut apporter. Et on croit qu'il doit y avoir une autre force qui doit intervenir. Et ça, on l'a vu, je peux citer quelques exemples. Nous avons l'équipe nationale du Congo, les Léopards, en 1974. Donc, ils vont jouer en Allemagne et ils vont avec tous les féticheurs possibles, en s'imaginant, donc voilà, ils vont les aider par exemple à gagner. Bon, il y avait un des meilleurs joueurs dans cette même équipe de l'Europe qui s'appelle Ndaye Mutubila, et je crois que c'est le, jusque-là, c'est le meilleur buteur des championnats d'Afrique, mais en football évidemment, mais ce qui s'est raconté autour de lui, c'est qu'il ne permettait pas, donc il avait de la magie, de fétiche, qui ne permettait pas aux autres de gagner. Bon, vous avez l'équipe de Mazembe actuellement, et chaque fois, avant de jouer, bon, parce qu'ils doivent aller à la messe. Je ne dis pas que c'est négatif, loin de là. Mais comment est-ce que cet aspect psychologique, évidemment, ne puisse être un lieu de motivation, mais au lieu de se croire incapable et qu'il faut quelque chose d'autre. Ça, c'est du côté, je dirais, le côté peut-être négatif. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'éléments positifs dans la relation entre les sports et la foi. Parce qu'un des éléments est positif, je crois, au niveau de la foi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau du sport. Donc, il y a d'abord être ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le sport par exemple, c'est un des lieux où les gens, positivement je dirais, se reconnaissent. C'est-à-dire, c'est un des lieux où l'unité des peuples, des groupes, des gens peuvent se reconnaître à travers une équipe. Mais évidemment, cela, à moins que ça ne soit pas un lieu aussi d'exclusion de notre groupe. Donc je crois que c'est un élément, c'est très très important. J'ai vécu au Nigeria pendant 2 ans et j'étais au nord et il y avait des conflits entre musulmans et chrétiens. Le sport, et beaucoup plus spécifiquement le football, était utilisé pour mettre les gens ensemble, les élèves par exemple musulmans et chrétiens. Et ils pouvaient jouer, être dans l'une ou l'autre équipe. Et c'est quelque chose qui a été très important et qui a joué beaucoup à rapprocher les gens. Et je crois que pour quelqu'un qui vit sa foi, par exemple dans le sport, où ça signifie dans un lieu comme le sport, il peut y avoir aussi des questions de violence, des questions de compétences, des questions de racisme. Si quelqu'un vit sa foi à travers, disons, à travers le sport, je crois qu'il a affaire à tous ces paramètres et à pouvoir se définir en rapport avec sa foi. Et donc, je crois que c'est un lieu qui est important. Mais ce qui est aussi à éviter, c'est cette croyance pour moi à l'invisible, à croire que je ne peux gagner que grâce à certains autres pouvoirs. Je crois que c'est un lieu aussi où il faut, et pour ceux qui veulent exprimer leur relation à Dieu et à travers plusieurs éléments qu'on retrouve dans le sport, et je crois que c'est important, c'est encourageant.
Je vais dire sur une chose et rappeler que, en fait, c'est encore une fois ce dualisme religieux entre le mal et le bien, l'esprit et le corps. Et nous avons ici affaire à un personnage qui est mobile, qui est Maradona depuis son jeune âge, entre finalement son corps et l'esprit et ses croyances. Et effectivement, c'est une bonne réflexion. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vers la sortie du 19e siècle, disons vers le 20e siècle, on voit un mouvement sportif qui est né, qui finalement rassemble toutes les religions. Donc on est en une sorte d'ouverture démocratique prônée par Pierre Coubertin qui arrive pour la première fois. Ce n'est pas finalement un combat doré qui est en train de se faire. Et le sport devient une sorte d'idéologie, de pensée. Il devient une école de la vie et une autre vision qui est prêchée dans les écoles un peu partout. On voit comment le sport va regagner les États-Unis, l'Angleterre et tout ça. Le football interdit par un décret royal, mais qui réussit à survivre en Angleterre. Donc faites attention, parce que nous avons vécu un monde différent où on a vu la crucifixion de Jésus. Et on a vu les guerres de religion, les guerres chrétiennes et tout ce qui s'est passé entre les chrétiens catholiques et les protestants, tout ça. Et donc, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est qu'en 2000, Maradona va se rendre devant le pape et il sera choqué par le décor du Vatican. Mais là, ils ont exploité effectivement cette phrase, tout ça. Et ça me paraît bizarre parce que c'est la même réaction que Martin Luther, donc la scission de l'Église catholique, qui avait provoqué finalement peut-être cette scission. Alors là, je ne rentre pas dans la religion, mais pour la première fois, on croit à cette sorte de philosophie, cette sorte de culte qui rassemble tout le monde dans la gaieté et qui a ses lois. Ça, c'est très important, donc. Les lois qui vont gêner même certains pays du monde, les lois sont érigées pour protéger effectivement ce sport qui rassemble. Maintenant, il faut dire que effectivement, ce qu'on vient de dire ici, c'est qu'on voit les acteurs, l'élément individuel qui a ses croyances et qui est accepté dans l'équipe. Ça, c'est très important. Un musulman, un catholique, un protestant, il est accepté. Et il deviendra peut-être quelqu'un qu'on adore parce qu'il a un beau geste, parce qu'effectivement, entre guillemets, il a la main de Dieu. Il a été et il sera plus ou moins dans certaines communautés déifiées et présenté comme un sauveur. C'est ça l'image de Maradona.
Avant peut-être quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est dans le rapport, par exemple, à la religion, et religion ou plutôt simplement rapport à la foi, et c'est une relation civilisations qui existent même avant le christianisme. Quand on parle par exemple des Jeux olympiques, évidemment, je crois qu'on pense aussi à la Grèce antique, n'est-ce pas? Et quand vous regardez que ça soit l'Égypte antique, que ça soit la Rome antique, que ça soit la Grèce antique, il y avait une relation entre les dieux et les jeux. Et vous n'avez qu'à regarder par exemple la représentation des dieux. Un élément qui serait assez important peut-être à explorer, tout en ayant le sport comme lieu d'unité, c'est un élément fascinant du rôle par exemple du sport dans la relation avec la foi ou même l'unité des peuples. C'est un des lieux où les gens oublient d'où ils viennent à ce moment-là. Mais en même temps, on devrait aussi se poser la question, par exemple, même des pratiques ou des croyances ou des attitudes qu'on n'exprimait pas dans la société en général, mais on le voit dans les sports. Par exemple, le cas du racisme et ailleurs qu'on trouve de plus en plus dans les sports aussi, parce que nous parlons de la foi. Est-ce que, par exemple, ces lieux, disons, ces lieux sportifs ou ces compétitions deviennent le lieu d'expression, de, disons, le miroir de notre société? Par exemple, le racisme, très probablement, parce que j'ai besoin de beaucoup de gens pour que je m'exprime. Mais il y a aussi le fait anonyme, c'est-à-dire on est dans les groupes et on peut crier, on peut insulter un joueur qui n'est pas de notre origine. Et comment est-ce que le sport devient comme le lieu où se pratique, ou plutôt s'exprime aussi le racisme ou autre exclusion? Ça devient comme un rituel, n'est-ce pas? Ça demande aussi une certaine réflexion. Et là, je crois que la foi peut jouer un rôle, parce que vous avez, au niveau de la justice, il y a un arbitre qui est là. Dit voilà, il y a une faute, il y a pas de faute, etc. Mais c'est un lieu où l'éthique s'exprime, par exemple, un joueur qui ment, où le sens de la compétition, le respect de l'autre, je joue contre l'autre, c'est pas un ennemi, mais c'est un autre, mais en même temps, qui est aussi mon semblable. Autant de questions, je crois, qu'on peut trouver dans le sport.
Oui, alors un élément très important, parce que là, je ne rentre pas dans la philosophie de la Grèce antique, tout ce qui est finalement les jeux qui étaient organisés. Non, mais pour dire tout simplement que tout ce qui se faisait, que ce soit à Rome, que ce soit à Olympie, c'était pour un culte de Dieu. Hein. On voit bien que, bien voilà, sûr, on parle de la main de Dieu. Mais il y a aussi une déesse qui doit apporter la victoire à quelqu'un, à l'athlète. Cette victoire venue finalement de Zeus. Mais en fait, cette sorte de croyance, elle se manifeste à travers les siècles. On va voir même que la conquête de tout l'espace qui a eu lieu, que ce soit conquête d'Alexandre le Grand, c'est qu'il a respecté finalement les religions là où il est passé et qu'il est même allé très loin au temple d'Amos pour finalement prier, tout comme il pouvait aller à Delphes, tout ça. Et là, ce qui se passe en Amérique latine, c'est que par rapport à d'autres religions catholiques ailleurs, là je reviendrai à l'église de Maradona ou ailleurs, c'est qu'en fait, on voit que l'église catholique a en quelque sorte s'est adaptée au temps et à l'histoire, et à laisser son mélange de culture. Si tu vas au Brésil, si tu vas en Argentine, c'est tout à fait différent. Donc, il s'est adapté au rythme, au temps. C'est pas la même chose peut-être qu'en Afrique ou ailleurs. Donc, il y a une certaine culture qui est rentrée dans l'Église catholique, qui a été acceptée. C'est pour ça que finalement, on n'est pas étonné que le pape François vient finalement de l'Argentine, mais il a des origines italiennes. Mais quand on devient une vedette, le problème des médias, c'est qu'on va essayer à trouver vos origines. L'Argentine, c'est vraiment en même temps espagnole et italienne. Donc, mais la différence de Maradona, c'est que lui, il a trois origines. Il est trinitaire. Et il va rassembler par rapport à d'autres, par rapport à des grands musiciens comme Astor Piazzolla. Il est l'autre parce qu'il représente cette sorte de trinité, cette image trinitaire qui est le monde amérindien, qui est l'Espagne qui l'achète. Et il se retrouve en Italie et le peuple aime Maradona parce qu'il a des origines aussi italiennes. C'est pour ça qu'on voit bien deux camps qui vont applaudir la victoire de l'Argentine contre l'Italie. Et à ce moment-là, nous, on priait Dieu à cette époque-là pour qu'en finale, l'Angleterre ne rencontre pas encore une fois l'Argentine. Donc en 1990, il faut que l'Angleterre ne rencontre pas l'Argentine de nouveau, parce que la victoire, on l'avait acquise, le peuple argentin avait acquise la victoire sur l'Angleterre en 1986. En 1990, c'est finalement catastrophe pour finalement le peuple italien qui adore Diego Maradona. Et cette demi-finale qui se passe encore à Naples. Naples, un peuple qui a été complètement oublié et qui était, si vous voulez, une région florissante à l'époque de Rome antique et qui finalement, début du XXe siècle, va se retrouver dans la misère totale. Alors que Milan, et finalement du côté de la Juventus, les grandes équipes de Milan avec Berlusconi, Agnelli avec la Juventus, donc on oublie un peu Naples. Donc Maradona qui vient et qui sauve la situation, qui est adoré. Il est adoré non pas seulement en tant qu'Argentin, mais en tant que quelqu'un qui a des origines italienne.
Nous arrivons au terme de cette première partie de notre émission consacrée à la main de Dieu de Maradona. Merci à Tarsis Harelimana, journaliste sportif olympique indépendant. Merci à Jean-Pierre Karegeye, chercheur et spécialiste des questions religieuses. Lionel Lunanilagahima assure la mise en onde. Eric Manirakiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.